Bonjour, c'est le 15e épisode de La Bonne Aventure. La Bonne Aventure, c'est une émission de podcast qui interroge les artistes le matin de leur vernissage. Et aujourd'hui, c'est avec Lily Wood qu'on enregistre l'émission. Salut Aurélie.
Bonjour Damien.
Et c'est un super souvenir parce que le premier podcast, le numéro 1 de l'émission, c'est avec toi qu'on l'avait fait en novembre 2021. C'était pour l'exposition Sous le vent. Et tu avais un peu essuyé les plâtres de cette première émission parce qu'elle avait duré finalement que 20 minutes à cause des coupes et tout ça. Bon, bah, est-ce que ça va aujourd'hui?
Ça va bien.
Et alors là, qu'est-ce que tu présentes? C'est une rétrospective de 50 peintures qui s'appelle Respire.
Oui, c'est ça. C'est un travail. C'est le travail des trois dernières années. 50 peintures, je ne savais pas compter. Il y en a 50?
Ouais, je crois qu'il y en a plus en fait. Sur les murs, on en a accroché 50, mais on en a en réserve encore.
D'accord, c'est un peu le cheminement des trois dernières années. Respire parce que je vis à Cancale, au bord de la mer. La peinture, c'est ma respiration à moi. Et ce qui m'inspire, c'est la nature, ce qui me fait respirer.
C'est la troisième exposition Respire. En 2021, tu avais exposé les carrés de Cancale. C'était des carrés 20 par 20 qui étaient vraiment focalisés sur la mer, les flots, la translucidité des eaux. C'était magnifique.
Oui, c'est vraiment la première exposition que j'ai faite juste en arrivant à Cancale, parce qu'avant, j'étais parisienne. Et j'avais une grande attirance. J'étais inspirée par l'eau. Et je peignais déjà pas mal d'eau, et quand on est parti vivre au bord de la mer, c'est la première chose que j'ai fait, peindre l'eau. Puis après, je me suis attrapée par tout le reste, les nuages, le vent, les paysages qui sont incroyables.
Ouais, tu fais des balades quotidiennes, tu disais, oui. Dans la lande, autour de là où tu habites.
Oui, sur le chemin des douaniers, près de Cancale, où le paysage change tout le temps. La mer, le ciel, c'est un endroit assez incroyable.
Et la deuxième exposition, justement, s'appelait Sous le vent, en 2022. Et là, tu dessinais le vent, en fait. Oui. Cette force invisible qui est le vent, qui tord les arbres, qui fait circuler les nuages. Et le ciel est apparu beaucoup dans tes dessins. Et maintenant, c'est pour cette troisième exposition, Respire, c'est une sorte de fusion un peu de tout ça. C'est une déambulation dans toutes tes émotions de ces paysages. Donc, il y a le vent, mais il y a le ciel, il y a la mer, il y a les landes, tous les éléments naturels, en fait, toute l'émotion que tu mets. Est-ce que tu peux raconter comment tu dessines, justement? Comment ça devient tout ça dans tous ces... Chaque tableau est différent, chaque tableau est une émotion.
Oui, en fait, c'est une déambulation, c'est une recherche surtout. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est, comme je suis quelqu'un de plutôt très émotive, j'essaye de dessiner quelque chose, les émotions qu'on peut ressentir quand on se promène et qu'on est face à la nature, mais ça peut être aussi d'autres émotions en réalité. Et c'est ça, la recherche, le travail que je réalise quotidiennement, c'est essayer de retransmettre la lumière, les choses puissantes qui nous émeuvent,
je pense que ça fait toujours bizarre de le dire. Mais
donc ma manière de travailler, c'est je pars toujours des couleurs. J'ai une grande plaque avec plein de petits carrés de couleurs et je fais des assemblages qui ne correspondent pas forcément, même rarement, à la réalité. Je vais mélanger un rose avec un vert assez puissant, un bleu foncé, un lilas avec un bleu, et ça va me provoquer quelque chose, et donc je vais partir de là. Et puis... j'essaye aussi de faire un travail autour de la lumière. Bon, pour moi, j'en suis encore au tout début, mais c'est aussi faire en sorte de faire ressortir la lumière en contrastant deux couleurs. Donc, c'est pas des couleurs qui vont être en réalité qui vont ressembler à la réalité, mais elles vont juste se choquer en fait. Elles vont C'est quand je trouve que c'est puissant, bah, je me dis, OK, je vais partir de ça. Et ensuite, bah, je prends un paysage qui m'a un peu surpris dans la journée, un nuage qui m'a émue. Et je pars de là, puis après, je transforme, je modifie. Voilà.
Oui, c'est hyper intéressant parce que toi, c'est vraiment de la couleur d'où part oui. tes œuvres, en fait. Oui. Certains artistes font des croquis noir et blanc et ensuite font une recherche sur les couleurs pour coloriser leurs dessins. Mais toi, c'est à l'inverse.
Alors, moi, je ne fais pas du tout de croquis, jamais. Parce que, j'essaye de garder l'intention au moment du travail. Donc, je me mets toujours dans des situations un peu périlleuses et j'aime bien parce que je suis obligée d'être très concentrée. Vraiment focus et il y a un peu de stress. J'aime bien faire les dessins assez rapidement. Il faut que ça soit fait dans une matinée ou dans la journée maximum. Après, quand c'est des grands formats, je mets plutôt 2 ou 3 jours. Mais sur un format carré, enfin A3, c'est quelque chose qui doit être fait dans la journée parce que j'ai besoin d'avoir une petite pression qui me permet d'être vraiment très concentrée et d'être concentrée sur le moindre de mes gestes, en fait.
Ah oui, c'est une sorte de projection presque instinctive aussi. Enfin, tu retravailles. Tu peux retravailler, tu me disais quand même, certains dessins.
Ça m'arrive quand un dessin est raté, je le mets de côté. Et 3 semaines, 1 mois ou plus tard, je le reprends et je me dis « Ah !» Parce que je ne suis plus dans l'émotion. Enfin, souvent, quand il est raté, je n'ai pas trop envie de le voir. Et je le reprends et je me dis « Ah, bah, y avait quand même quelque chose d'intéressant dans ce dessin. Je vais changer le bas ou le haut. » Et puis, parfois, je change tout. Et comme j'utilise une gouache acrylique, qui est très intéressante, parce que bah, déjà, les pigments sont puissants, donc la lumière, les couleurs ressortent bien. Et elle a cette particularité de pouvoir... On peut faire plusieurs couches. Quand on travaille la gouache classique, si on repeint par-dessus, la peinture se liquifie et tout se mélange. Alors que grâce à cette gouache acrylique, il y a du plastique dedans, c'est pas très écologique, mais ça permet de faire des couches comme quand on fait de la peinture à l'huile.
Comme des glacis un peu. Et de la diluer aussi, tu disais,
comme de
l'aquarelle. Ouais. C'est pour ça, ça crée dans tes dessins à la fois une transparence extrême pour translucidité quand tu peins les flots et en même temps quand tu dessines les ciels. Les ciels, maintenant, on dit c'est les ciels de Lilywood. On devrait dire les cieux, mais ça, je trouve qu'il y a une autre connotation. On va dire les ciels de Lilywood où il y a quasiment un effet 3D parce que c'est incroyable. Il y a une intensité dramatique. Et là, je pense que tu superposes un peu les couches et tu joues sur les effets de profondeur, de contraste et de lumière aussi. Et là, ça, c'est envoûtant, quoi. Je pense que les paysages que tu fais maintenant sont quasiment presque dédiés au ciel, en ce moment, en tout cas.
C'est vrai, de plus en plus. Parce que... Oui, il y a deux... En fait, souvent, il y a deux points de vue différents. Soit le point de vue terrestre, où on voit le ciel, l'infini du paysage et le personnage tout petit. Mais j'aime aussi faire des plans vus du haut comme si c'était un oiseau qui regardait ou je sais pas quelqu'un qui voit le monde de plus haut et là il y a pas le ciel du tout par contre là c'est plutôt la mer
Tu joues sur les perspectives elles sont vertigineuses là comme celui qui est juste devant toi qui a un grand format alors ce qui est inédit aussi c'est que tu as commencé à travailler sur des petits formats 24 36 30 maximum et là ça y est tu t'exprimes sur des grands formats là on en a 4 on a la chance d'avoir 4 grands formats qui font quasiment 46 par 61 pour être précis. Tu as exposé récemment à Liège aussi dans une galerie, la Buronzu Galerie avec Jean Mallard et vous êtes parti sur des grands formats. Et là, du coup, est-ce que ça change pour toi ta façon de travailler quand tu es sur une grande page blanche comme ça?
Oui, bah complètement. D'abord, au début, je ne le faisais pas parce que je trouvais ça très impressionnant. Et quand on travaille sur un petit format, déjà la position du corps est différente parce que je travaillais sur une table courbée la tête baissée, les yeux vraiment collés au dessin. Et je suis dans quelque chose de minuscule. J'essaye de faire l'immensité dans un tout petit carré ou enfin, une petite feuille. Et c'est vraiment quelque chose de très personnel. Enfin,
intime.
Intime, mmh. Voilà. Quand je fais des formats plus grands, bah là, en fait, le corps rentre en action. C'est plus juste le poignet, on est obligé de faire travailler le bras, puis une partie de l'épaule, et du coup la jambe, et il y a un geste, un mouvement, et ça crée quelque chose. Enfin, c'est vraiment différent parce que ça manque, ça nous ancre. Enfin, je sais pas, je dis moi, mais j'imagine que c'est pareil pour les autres. Différemment dans le moment de peindre, en fait.
Mais t'as pas eu d'angoisse, parce que parfois, justement, pour passer à des plus grands formats, certains artistes nous disent « Oh là là, ça me panique un peu, donc je préfère revenir. »
D'angoisse, non, parce que je joue pas ma vie, c'est pas grave, si c'est arrêté, je recommence. Je savais pas si j'allais y arriver, et parfois, je trouve que... Enfin, il faut quand même... C'est toujours pareil, c'est un cheminement. Donc au début, c'est jamais parfait. Et puis c'est à force de travailler qu'on commence à choper quelque chose. Et puis même après, c'est difficile de revenir au petit format parce que en fait, c'est toujours une question d'habitude. Mais non, c'est pas de l'angoisse. Plutôt, ouais, une recherche. Enfin, essayer de trouver la
façon de faire, mais en ouais. Plus, c'est très chouette ce que tu dis, parce que j'imagine aussi encourageant pour ceux qui n'osent pas ou qui se mettent beaucoup de pression, se disant faut que mon dessin soit abouti, il faut qu'il soit terminé, il faut qu'il soit... Enfin, ils mettent beaucoup d'enjeux dans la couleur aussi, alors qu'on sent chez toi, et peut-être que ça peut inspirer d'autres, une grande liberté. Tu te tords pas l'esprit pour dessiner, tu dessines tes émotions, ce que tu as envie de dessiner, sans mettre en perspective si le dessin va être réussi, pas réussi. Tu dis, s'il est raté, c'est pas grave, j'en ferai un autre, ou bien tu le mets de côté et tu le retravailles après. Et du coup, ça doit être très libérateur aussi, ce dessin. On le sent d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est assez irrésistible, que toutes tes vues, tout ce que tu dessines, il y a un renouvellement sans cesse sur la palette, évidemment, sur les points de vue. Parfois, les cadrages sont des perspectives vertigineuses. Parfois, on est dans le ciel, en contre-plongée. Mais tu t'interdis rien, en fait. Tu fais ce que tu as envie. Tu dessines ce que tu as envie.
Oui, bah déjà, pour le fait de se mettre la pression, bah, en fait, il faut enfin, c'est normal de rater au début, enfin, il faut rater, on se trompe, enfin, faut être assez humble, on peut pas être, c'est vraiment un travail de longue haleine, la peinture, le dessin, donc c'est vraiment une
pratique. Et tu dessines beaucoup toi aussi, hein, en fait, c'est une respiration, tu disais.
Bah, je dessine pas trop, en fait, je fais plutôt, oui, de la peinture.
Oui, tu peins beaucoup,
mais
oui.
J'ai pas, il y a une période, quand j'étais plus jeune, j'avais le petit carnet où je dessinais un petit peu tout ce qui se passait dans mon quotidien, mais ça, je le fais plus du tout, je fais juste le moment de peinture, je me mets dans mon atelier et je peins. Et après, le côté libérateur, bah oui, en fait, c'est ma soupape, ça me permet de me sentir bien et d'être à ma place. Donc je ne fais pas mettre la pression parce que sinon ça ne va pas bien se passer. Oui. L'idée c'est de, au contraire, il faut que ça soit apaisant et presque thérapeutique.
Ça te fasse du bien, oui, ouais. Voilà. Est-ce que au premier podcast tu disais je peins pour me faire du bien et pour faire du bien aux autres aussi, que ma peinture apaise ou cautérise des fois des plaies ou bien accompagne, enfin qu'il y ait quelque chose réconfortant aussi dans ces paysages. Et bon, après il y en a certains quand même, les ciels sont sombres, hein, sur certaines peintures, mais n'empêche on a du plaisir, enfin sur alors le pardon, excuse-moi, celui-ci ça s'appelle
En chemin,
ouais, il y a vraiment un contraste très fort entre le ciel qui est, on sent que la pluie va arriver.
Mais il y a quand même, il y a un ciel très sombre, mais il y a quand même de la lumière.
Mais il y a de la lumière, c'est fou, ça, c'est ton travail sur la lumière. Il faudrait que tu nous expliques comment tu fais, mais
et surtout,
c'est le contraste avec le sol qui est presque jaune fluo.
Oui, en me promenant dans les paysages bretons, souvent je me rends compte que quand le ciel est très très sombre, il y a des beaux nuages bien noirs, gris, juste avant les orages. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe à ces moments-là. On a l'impression que la lumière vient du sol. L'herbe est beaucoup plus presque fluorescente, ou Les pierres sont grises, lumineuses, le lichen jaune devient fluorescent aussi, c'est vraiment magnifique.
Ouais.
Et oui, il y a ce côté un petit peu terrifiant, l'orage va venir, mais et en même temps, il y a la lumière, c'est puissant. Il y a ça aussi au moment où, juste avant le coucher du soleil, quand la lumière commence à baisser, juste avant... quand ça commence à devenir un petit peu bleu, là aussi, il y a quelque chose d'assez puissant. On dirait que le paysage devient fluorescent.
Oui, que la Terre s'est dotée d'ampoules et ça fait sortir de la lumière. Mais ce qui est fou, c'est que tes peintures, on en a, ou des dessins, on a aussi des éditions limitées de toi, mais on a cette expo, c'est un panorama de, comme tu disais, 3 années de travail, mais on va de dessin en dessin dans cette exposition et à chaque fois, il y a un sentiment justement qui est lié à l'effet de la couleur qui attaque directement le cerveau et qui nous fait avoir beaucoup d'émotions. Et l'émotion, elle est différente à chaque fois, sur chaque dessin. Et maintenant, quand on se promène avec Cyril et qu'on voit des ciels ou des paysages, tu nous as réappris à regarder la nature, en fait. Tu t'as changé notre regard. On se dit, mais... Alors regarde, cette lande, elle est battue par les vents, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui ressemble à tes dessins, et maintenant, c'est plus toi qui t'inspire la nature, c'est la nature qui te ressemble.
C'est gentil.
Mais tu sublimes, tu magnifies la nature, et tu nous éduques le regard pour apprendre à regarder ce qui est beau et ce qui est autour de nous, c'est pas vrai, Cyril ? Enfin, c'est vrai, hein.
Ça me touche beaucoup, mais... c'est très touchant ce que tu me dis là. Ah. Et alors moi, quand je peins les nuages... quand je me mets à peindre quelque chose dans la nature, un nuage ou une herbe, et ben j'ai aussi cette sensation-là parce que après je vais me promener, j'ai fait des herbes pendant 3 heures et puis je vais me promener et du coup je suis focalisée aussi sur les herbes et c'est comme si tout d'un coup le fait de les avoir peints, ça m'avait appris à les re-regarder,
oui, c'est ça.
Pareil pour les nuages, donc c'est quelque chose, c'est assez puissant parce que j'ai l'impression que ça se terminera jamais. C'est génial.
Un rapport assez fusionnel avec la nature aussi que tu as et qui t'a fait sans doute quitter Paris. Tu habitais Montreuil, tu disais, et oui. Cette installation à Cancale, ça a explosé ton inspiration.
Oui, c'était la meilleure chose qui nous est arrivée.
Qui pouvait vous arriver avec ta famille. Ben oui. Tu disais, j'aime bien cette phrase la dernière fois quand on montait l'expo, tu disais parfois on a l'impression qu'il y a un fou qui a peint le ciel, quoi, tellement que c'est... Mais...
Oui, c'est vrai, à Cancale, parfois ces derniers temps, il y avait des ciels assez incroyables et parfois oui, on a l'impression que c'est presque un ciel qui ne pourrait pas exister, il y a des espèces de gros coups de pinceau comme ça... dans les nuages et je pense que si on les dessinait... On aurait l'impression que c'est faux alors que...
Oui, c'est comme celui qui est juste derrière toi, là, qui est ocre et gris. Alors, il y a toute une... En fait, on marche par palette, on sent qu'il y a des saisons. Il y a une saison d'ocre et de gris, il y a une saison de mauve et de bleu, il y a une saison de vert et de mauve et de rose. Et là, celui-là, quand on l'a vu, mais les nuages sont complètement tordus, on est sur d'arabesques de nuages fantastiques et les nuages prennent quasiment tout le dessin. C'est les 2/3 ou même 3/4.
Et ça, c'est des vrais nuages, juste avant un orage, que je voyais de ma cuisine. Et il y a vraiment une maison comme ça en face de chez moi, sauf qu'il y a une rue. Donc, ce n'est pas du tout le même paysage. Mais par contre, le nuage et le ciel étaient réellement comme ça. J'ai fait une photo et après, j'ai essayé d'être au plus près de la photo. Et c'est vrai qu'il y a un
côté fou,
un peu
irréaliste. Comment, justement, tu disais le travail de la lumière, j'en suis qu'au début. Quand même, ça promet quoi. Qu'est-ce que
non,
on va où
pas,
là
justement, je sais pas, mais la peinture, c'est l'histoire d'une vie en fait. Donc je sais pas où est-ce que ça va aller.
Comment tu fais? C'est quoi ta botte secrète justement, pour arriver à sur la grande peinture qui a servi, qui est un peu emblématique de l'exposition, c'est le grand format que tu as fait tout au début pour exposer ici, qui s'appelle Ce pays qui te ressemble. D'ailleurs, le titre est magnifique, c'est un peu une déclaration d'amour.
Non, pas forcément. C'est un vers de Baudelaire, Invitation au voyage. C'est un poème qui me faisait rêver quand j'étais adolescente.
Ah, et vas-y, alors, ça donne quoi?
Mon ami, toi, ma sœur, Mince, j'ai oublié le poème, mais c'est, ouais. ça me touchait beaucoup quand j'étais adolescente. On aime bien ça. Songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à mourir, aimer à loisir au pays qui te ressemble.
On peut dire, est-ce que la poésie t'inspire du coup? Alors, Baudelaire, par exemple
J'en lis pas assez, mais j'aime bien la poésie. Ça me fait du bien. De la poésie du monde, enfin la poésie dans la peinture, la poésie dans les mots. J'en lis pas suffisamment, mais c'est quelque chose que je trouve apaisant, assez pur. Cette peinture, avec cette lumière assez incroyable, c'est les levées de soleil qu'on a l'hiver à Cancale. Le matin, je dépose mes enfants à l'école et je descends sur le port. Et il y a des matins où vraiment le ciel est de cette couleur-là.
Avec ces franges, là, elles sont presque flamboyantes, rouges, roses.
Oui, exactement. Ces couleurs-là, un mélange de gris.
Et tu transposes en fait la couleur. Après, tu la mets sur le sol avec ces herbes folles qui ont le reflet du ciel, en fait.
Oui, bah après, j'essaye de faire une sorte d'équilibre. Hein. C'est un peu instinctif. Je ne réfléchis pas trop. Il faut que ça me semble être équilibré et doux.
Et après, tu dis souvent aussi qu'à la fin, sur la plupart de tes peintures, il y a des personnages. Il y en a très peu où il y a personne. Là, dans cette exposition, je crois qu'il n'y en a qu'une seule. J'en vois qu'une seule qui est habitée par aucun personnage. Tu dis, à la fin, je rajoute une silhouette. C'est la dernière chose que tu fais quand tu achèves un tableau, c'est d'y placer quelqu'un.
Oui.
Souvent une frêle et minuscule silhouette qui nous aide, nous, à nous projeter. C'est pour nous tendre la main, en fait.
Oui, alors quand il y a juste un petit personnage, je le mets vraiment tout à la fin. Enfin, je mets toujours les personnages à la fin, mais parfois, quand il y a juste un personnage, oui, c'est vraiment la toute dernière touche. C'est une invitation à venir dans le tableau. Et parfois, il y en a plusieurs. Alors là, c'est plutôt des moments de vie où quand on est sur la plage, il se passe toujours un milliard de choses.
Oui, il y a aussi des tableaux un peu autobiographiques avec tes enfants.
Oui, ouais. Oui, finalement, quand je regarde les 3 ans de peinture, je me rends compte que c'est un petit peu autobiographique. Enfin, c'est un petit...
C'est très personnel, parfois. Ouais, de toute façon, toutes tes peintures, effectivement, elles viennent de loin en toi. Enfin, c'est un petit peu toi que tu mets dans chacune. Il y a ta famille, des fois on voit des jeux, avec toujours ces ombres immenses. Les personnages ont des ombres projetées sur le sol. Et ça aussi, c'est pareil. Au début, je pensais que c'était quelque chose un peu irréel et que tu déformais la réalité en faisant des ombres immenses. Et la dernière fois, j'ai vu que non, c'était... Oui. Je me suis dit, ah mais non, mais ces ombres, effectivement, c'est lilliwoodien, mais il y a des périodes de l'année où oui, là, c'est vrai.
Le soleil est assez bas et même en fin de journée, il y a... l'été ou en début de journée, mais l'hiver, oui, le soleil est assez bas et ça fait des ombrissements sur la plage. C'est vraiment très beau.
On a l'impression de se dédoubler en géant sur les ombres, ouais. En fait. On est petit, mais les silhouettes sont petites, mais leurs ombres sont immenses.
Oui. Ouais.
Et c'est quelque chose, c'est très beau. Et justement, c'est intéressant aussi parce que tu racontais, enfin, nous, ça fait plus de 10 ans que tu fais partie des premiers artistes de la galerie. Avant même d'ouvrir la SLE Galerie, je t'avais contacté et tu avais répondu en disant ben oui, je serais contente d'exposer chez vous et tout. Et tu étais enceinte.
Je venais d'accoucher.
Ouais, tu vivais encore à Berlin.
Quand tu m'as envoyé le message, ma fille avait un jour.
C'est trop sympa de m'avoir répondu. Ouais. Et tu dessinais, on avait commencé à présenter une série de dessins qui... Alors je ne sais pas si on peut dire que ça n'a rien à voir, parce qu'en te connaissant bien quand même, on sent le lien un peu mystique, quelque chose de très sensible aussi, presque chamanique, mais qui était tout à fait différent. C'était toute la série des Kamehameha... Tu te souviens
Oui, alors
c'était au feutre, c'était dessin au feutre.
Il y a deux choses. D'abord, je faisais pas de peinture à cette période-là. J'avais commencé par faire du. Alors, je suis vraiment autodidacte, donc j'avais commencé par faire du dessin au crayon stylo noir. Et puis j'avais très peur de passer à la couleur parce que j'avais l'impression que j'y arrivais pas du tout. Et un jour, j'ai eu des feutres et je me suis mis à dessiner au feutre. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des touches de couleur au feutre. C'était presque comme de la peinture, en fait, avec le feutre. Et je passais énormément de temps. C'était vraiment l'inverse, la manière opposée de travailler, parce que je pouvais passer 15 jours sur le même dessin. C'était des choses très minutieuses.
Avec beaucoup de motifs et de détails.
C'était la première fois que j'utilisais la couleur. Et toute la série que je t'avais donnée pour la galerie, je l'avais réalisée pendant que j'étais enceinte. Donc j'étais vraiment dans un état... Bah, déjà, c'était assez... nouveau pour moi, c'était assez étrange et c'était vraiment quelque chose de méditatif, un peu comme quand on fait des
oui, il y avait un peu quelque chose, un peu comme des origami ou des choses
japonaises. C'est assez quelque chose un peu japonais qui permet de se retrouver alors par contre, il y a quelque chose qui était assez similaire. Je faisais pas de croquis. J'allais directement sur la feuille sans savoir ce que j'allais faire. J'avais très peur de faire de la peinture. Pour moi, la peinture, c'était les grands peintres, Monet, Picasso. Pour moi, c'était pas quelque chose d'atteignable. Il n'y avait pas de raison de peindre. C'était pas quelque chose que j'avais le droit de faire. Et petit à petit... donc à force de faire ces dessins au feutre, donc finalement ça ressemblait presque comme de la peinture mais avec du feutre, je me suis acheté de la peinture, c'était la gouache que j'ai, hein, ça n'était pas une autre, et au début j'ai commencé à faire des aplats un peu comme le feutre, vraiment c'était des dessins plutôt avec des aplats de couleurs, et petit à petit j'ai commencé à utiliser la peinture comme on utilise la peinture en vrai, faire des mélanges, essayer d'aller dans le mouvement de la main et voilà, et j'en suis j'en suis là, je sais pas où est-ce que je vais aller.
Mais c'est hyper intéressant, tu parles beaucoup du mouvement, il y a quelque chose de très, une expression du corps quand tu peins qui est importante pour libérer peut-être aussi le geste et donner un peu de fluidité à tout
au moment où je fais l'herbe par exemple, c'est un peu comme si tout d'un coup j'arrêtais de respirer et je me mets à faire des gestes assez précis mais rapides, donc il y a beaucoup de concentration parce que d'un côté il faut une sorte de lâcher prise parce que être dans l'instantané du geste et en même temps un contrôle, donc c'est très très méditatif.
Et ça se sent, il y a justement une vie et un mouvement dans tes dessins, et tu disais souvent que tu recherchais ça aussi, la lumière, et ce qui t'animait c'est le mouvement, la lumière, ouais. Et de trouver le choc, comme tu disais tout à l'heure, de couleurs qui va créer la lumière, d'où va naître la lumière, ouais. Et quand tu disais « je suis autodidacte », ça veut dire que tu n'as pas forcément fait des études d'art ?
Non, je n'ai pas fait d'études d'art. J'ai dessiné, je dessinais un peu quand j'étais petite, mais ce n'était pas non plus ce que je faisais. Je ne passais pas des heures à dessiner. Je passais beaucoup de temps dans la nature. J'étais une contemplative. J'étais la fille qui monte dans les arbres et qui reste 2 heures sur la branche. Regardez le paysage, voilà.
Donc ce rapport à la nature, il est en toi depuis toujours.
En fait, ce qui est magique avec le dessin et la peinture, c'est qu'on peut un peu créer le monde qu'on rêverait d'avoir. Donc c'est peut-être plus ça qui m'anime en fait que le fait de dessiner. C'est me projeter un imaginaire qui me fait du bien et qui peut aussi faire du bien aux autres par la même occasion.
Ça t'est venu comment ? Enfin, comment à un moment donné, tu dessines ? Tu disais je dessinais, après tu dessines de plus en plus, et finalement tu... Parce que quand t'as commencé, quand on s'est connus, moi j'avais repéré tes dessins, on se le dit souvent, mais c'est par ce site qui est dédié à la créativité en général, Boom Bang, qui interviewe les artistes, il était super, et effectivement, ton interview était super, et effectivement, tu dessinais, c'était très illustré, en fait, oui. Il y avait une narration dans les histoires et tout, mais quand même, justement, pour arriver à cette étape déjà, pour que Boomerang te repère, ça veut dire que déjà que t'avais comment, c'est intéressant de savoir le cheminement de...
En fait, quand j'habitais à Paris... Au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai rencontré des gens, des dessinateurs dont c'était le métier. Et j'ai découvert...
Tu m'avais parlé de François Hollisleger.
Oui, il y avait François Hollisleger et d'autres dessinateurs. Et j'ai découvert que ça pouvait être un métier. Et que des gens vivaient de ce métier. Et, et, Et là, je me suis dit que bah, j'avais envie de faire ça, en fait.
C'est vrai, ça t'est paru évident.
Oui. Et donc, ils ont été de bon conseil. Enfin, François, je me souviens.
Ils ont repéré ton travail, quand même, déjà. Ils t'ont encouragé, j'imagine.
Ils étaient dans mon entourage, et oui, encouragé. Et puis, vraiment, les mots que j'ai entendus, c'était il faut dessiner, vas-y, dessine. Et en fait, c'est ça, quand on a envie de faire quelque chose, il faut juste le faire et mettre toute son énergie à faire ça. Et si l'intention, l'envie, et là, on peut le faire. Enfin, en tout cas, on peut essayer de le faire.
Après, ça doit être beaucoup de travail aussi, j'imagine.
Oui, mais c'est un plaisir.
Oui. Et donc, tout de suite, une fois que tu as commencé à mettre en marche ce mécanisme de dessiner, de dire, bon, bah, ça y est, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie.
C'était pas, je pense, c'était... en fait, il y avait une partie de moi qui avait toujours... Même si je dessinais pas beaucoup petite, j'étais quand même sensible à l'art. En fait, j'avais envie de raconter des histoires, mais j'avais pas forcément... tous les mots, enfin, j'avais quand même, j'ai toujours un petit problème pour m'exprimer et exprimer vraiment les choses de manière précise.
Tu le fais de
précise.
Façon tellement sensible que ça.
Quand j'étais petite, je voulais raconter des histoires et c'est aussi une manière plus instinctif de raconter des histoires, mais si j'avais plus de vocabulaire, peut-être que j'aurais plutôt créé des choses.
Plutôt aller vers l'écriture que le dessin ?
Oui, peut-être. Enfin, c'est vraiment juste une manière de s'exprimer. En fait.
Et justement, c'est pas quelque chose vers lequel tu as envie d'aller aussi ? Parce que, alors, pour parler de ta vie professionnelle et des travaux qu'on te demande de commande, comme on dit, mais dans lesquels tu mets toujours autant de sincérité et d'intention, quand on voit les livres que tu as illustrés, les livres jeunesse, tu as eu pas mal d'albums déjà.
Il y en a un livre jeunesse qui s'appelle La cabane aux trois sapins, édité au Seuil. Écrit par Élodie Devacher. Et là, il y en a un... Et je vais travailler dans 2 mois sur un nouveau livre écrit par Manon Fargeton, qui a grandi à Saint-Malo et qui a passé son enfance sur les plages que je peins. Et donc, elle a écrit des beaux textes que je dois illustrer, histoire d'un petit garçon qui se promène sur ces plages. Et j'ai vraiment hâte de le faire. Et oui... Enfin,
Moi, je sais pas, intuitivement, là, j'ai une vision et je te vois écrire un livre pour enfants illustré par toi. Et même pas forcément que pour enfants aussi, hein, ça peut être un des livres... Je pense que si c'est quelque chose que tu as en toi, tu
pour
sais, l'écriture...
J'ose pas vraiment l'imaginer.
Mais comme tu osais pas imaginer peindre, tu disais... Quand c'est embryonnaire comme ça, c'est comme si c'était fait, hein. Enfin, là, ça me paraît, je sais pas, j'ai une vision, mais ça te correspondrait tellement d'allier que ce soit aussi tes propres textes que tu
dessines.
Bah,
ça serait beaucoup de travail, alors, pour réussir à aller dans cette direction.
Oui, mais tout est du travail, hein, de toute façon. Hein. Déjà, là, tu travailles beaucoup. Enfin, pour arriver là où tu en es, arriver là à contrôler le geste, l'équilibre des compositions, des couleurs, etc. C'est pas, même si c'est maintenant devenu quelque chose de très libérateur, pour toi, il y a un travail immense en amont et puis aussi de concentration, comme tu expliquais. Donc, tout est travail. Et ça, c'est une autre piste de création, l'écriture. En plus, comme tu es portée par la poésie, ça serait génial. J'ai hâte. Là, pour en note d'intention de l'exposition, tu as écrit un mini texte en prose qui est super joli. Tu m'as dit, je l'ai écrit en une fois.
Oui.
On peut le lire ou pas ?
Si tu veux. Enfin, moi, je sais pas s'il est beau, mais c'est juste très personnel. Après, je dirais pas. Ah, c'est moi qui dois le lire. C'est un petit peu. Bon, j'ai fait exactement comme pour les titres de mes dessins. J'ai pas réfléchi. Mais je ne sais pas si c'est très bien. Donc j'ai écrit « Ressentir, regarder, la lumière traverser les herbes hautes, battue par les vents, le bruit des vagues, puissantes de l'océan. Inspirer les embruns, être dans l'instant, dans cette immensité, vivant.
Bah »
C'est la promenade en Bretagne, quoi, vraiment.
T'as été encouragée par des gens du métier, on va dire.
Encouragée, je dirais pas encouragée. Simplement, ils m'ont conseillé ou ils m'ont dit si tu veux faire ça, il faudrait faire ça. Et après, non, les gens que de mon entourage.
Ta famille, enfin, c'est important d'être soutenu par ses.
Sa famille. Plutôt, ce qui est agréable en fait quand on dessine et que les amis autour de nous réagissent et disent ah c'est génial, continue, c'est super, c'est vraiment, je pense que ça marche pour tout dans la vie, vraiment pas hésiter à encourager les gens quand ils font quelque chose qui a l'air chouette, et ça donne vraiment vraiment beaucoup de courage et d'entrain pour la suite. On fait ça aussi avec les enfants et c'est vrai que ça motive en fait, on se dit ah on peut faire ça, on peut aller dans cette direction, ça a l'air de toucher les autres.
Après aussi, tout ce qu'on a présenté à la galerie, le soir même de l'ouverture, ça a été vendu. C'est incroyable. Enfin, ça, j'imagine que ça doit aussi conforter dans l'idée que ce qu'on fait, ça plaît à d'autres personnes que son entourage proche.
Ce jour-là,
tout a été vendu.
Ce jour-là, je me suis dit, ok, c'est mon métier.
C'est
Et
vrai.
Avant, non. C'était vraiment le premier jour, on va dire, quand il y a eu
la soirée d'ouverture.
D'ouverture du vernissage il y a 10 ans. Les dessins ont été vendus. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que ça pouvait... Que peut-être j'étais arrivée... Enfin, je pouvais dire que j'étais dessinatrice ou illustratrice.
Oui.
Il y a 1000 mots, d'ailleurs.
Oui, la frontière, elle est mince entre le dessin et l'illustration.
Ouais.
Mais et ce qui est fou, c'est que l'appétit que les gens ont de ton travail, il n'a cessé d'être depuis ces 10 années. Le public ici, et alors que tu as changé de façon de travailler aussi, de style... Et c'est un bel exemple aussi parce que tu t'es réinventé sans te contredire quand même, parce que par nécessité, tu racontais que justement ces dessins que tu faisais au feutre, qui étaient très minutieux, qui avaient beaucoup de détails et qui te prenaient beaucoup de temps, ben, il a fallu que tu changes aussi de bon, tu t'es mise à la peinture, t'as osé, et après t'as changé aussi de façon de t'exprimer presque, parce que t'as eu des enfants,
parce
t'avais moins de temps.
En fait, exactement, quand j'ai fait ce travail au feutre, j'étais enceinte, donc j'avais tout le temps, tout le loisir, j'étais en arrêt, j'étais vraiment concentrée sur moi, donc j'avais le temps de faire des dessins qui pouvaient être réalisés en 15 jours, et ensuite ma fille est arrivée, donc jeune maman, je n'avais plus du tout le temps, donc je me suis mise à dessiner autrement, parce que j'avais besoin de dessiner, et donc pour ne pas être frustrée, de me dire, oh là là, il faut que je termine ce dessin, et pour que ça soit vivable, je me suis mise à dessiner différemment pour réussir à faire des choses plus rapidement, avec des gestes plus rapides, voilà, et tu dis que les dessins ont changé. Je pense qu'ils changeront encore, en fait, parce que dans une vie, on change, hein, de la naissance à la mort. On n'est jamais les mêmes, on se transforme tout le temps. Et donc, comme le dessin est le reflet de moi, forcément, ça va changer encore. Et je sais la direction que j'ai envie de prendre maintenant, mais peut-être que ça ne sera pas vraiment la direction que je prendrai finalement. Je ne sais pas, j'ai envie d'aller vers des... de la peinture de plus en plus abstraite, en restant quand même figurative un petit peu. Mais ça, c'est l'envie. Et après, peut-être que j'irai jamais vers ça. Je ne sais pas.
Oui, tu avais exposé à l'Anester une série de peintures, ouais, à la limite de l'abstraction. C'est vrai, effectivement, là, il y avait vraiment des enfin, c'était assez très, très épuré, avec un tout petit personnage en lévitation, parce qu'on ne distinguait plus. Là, on est quand même dans une composition où il y a le ciel, la lande, la terre, ouais, une maison, etc. Donc, on arrive à repérer géographiquement, enfin, les éléments. Mais là, à l'exposition de l'Anester, de cette ville de Bretagne qui s'appelle l'Anester, ouais, c'était vraiment une série de peintures très abstraites. Il y en a certaines qui ont été exposées à la
Durance-Galerie après. Alors oui, finalement, c'était abstrait sans l'aide, parce que ça restait du paysage, c'était la mer.
Mais épuré à l'extrême,
ouais,
en fait.
Épuré à l'extrême, voilà. Mais parfois, quand on se promène dans un paysage embrumé, il n'y a plus,
on distingue plus rien,
ni haut ni bas, oui, et c'est ouais, ça.
Il n'y a plus de commencement ni de fin, c'est très très beau. Et on te reconnaît encore, l'affiche, en fait, tu avais choisi, ça s'appelait Embrun à l'Anester, et c'est encore Lilywood, mais différemment, et c'est ça qui est, c'est super de s'accorder cette liberté aussi, de se dire je vais changer, je peux changer, de ne pas se dire je reste, il faut que je sois fidèle à ce qu'on attend de moi, parce que ça plaît, et je vais faire ce que je veux et ce que j'ai envie.
Alors, moi j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire.
Mais c'est la liberté qui caractérise, d'ailleurs tu as fait...
J'aime pas qu'on m'enferme dans une boîte.
Bah, c'est souvent, tu représentes des cavalières des fois à cheval, et là il y en a une sur un cheval bleu là, en chemin, et c'est un peu toi.
Oui, c'est ça.
La cavalière libre, aux chevaux, au vent.
Dans la vraie vie, je suis beaucoup moins aventurière, mais je suis aventurière dans mon travail.
Mais oui, mais c'est hyper important, je pense, comme on se connaît bien, je pense que c'est ça qui fait que c'est ce que tu fais aujourd'hui et ce que... Ce qui te représente le plus, c'est vraiment ça, je trouve, c'est la liberté.
Ouais, c'est gentil.
Ça fait du bien. Et ça touche tout le monde. C'est ça qui est fou. C'est depuis ces 10 années qu'on travaille ensemble, c'est fou comment les gens, beaucoup de gens te suivent, t'aiment, t'as une communauté aussi Instagram. Maintenant, Instagram est devenu aussi un outil de travail pour toi parce que ça permet de rester en contact avec ton public.
Ça m'aide, mais... Si tu veux, si je pouvais m'en passer, je ferais autrement parce que pour moi c'est aussi c'est une emprise hein, vraiment et ça me sert beaucoup parce que grâce à cet outil je peux rayonner et être diffusée dans une grande partie du monde et c'est vraiment très très appréciable et en même temps si je pouvais faire autrement et j'étais pas obligée de passer par cet outil parce que je suis un peu prisonnière aussi.
Oui, oui. Bah, c'est la version un peu funeste d'Instagram hein, qui nous oblige un peu à poursuivre là-dessus. Mais quand tu as commencé il y a 10 ans, il n'y avait pas un tel engouement pour Instagram et tu as quand même rayonné et tu t'es installé. En fait, on pourrait faire 100, il faudrait juste qu'on le décide, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du travail sur iPad. On en parle souvent des fois quand ça s'y prête dans les podcasts parce qu'il y en a beaucoup qui sont enfermés dans le travail. En fait, c'est la liberté dorée. Moi, des fois, j'en parle de toi aux autres artistes en disant « mais il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. De toute façon, ton dessin il est raté, ce n'est pas grave, t'en fais un autre. »
Bah oui, c'est vrai.
Au lieu de se dire... Je pense que quand on travaille sur l'iPad,
Ah oui, l'iPad.
Ou sur Photoshop, mais on se met une pression de vouloir finaliser, de vouloir terminer, perfectionner à
vraiment,
l'infini.
J'ai fait des... D'ailleurs, avant de dessiner au feutre, je dessinais sur Photoshop. Et c'est incroyable parce que c'est infini. On peut faire 1 milliard de calques, changer les couleurs. Ça donne confiance en soi au début. Moi, je pense que ça m'a donné beaucoup confiance parce que j'ai vu que je pouvais pas me tromper en fait. Mais après, ça nous enferme aussi dans un truc complètement dingue.
Une spirale infernale
où en fait tout peut être modifié tout le temps. On peut changer la couleur à l'infini. Donc comme il y a pas de comme en fait il y a plein de possibilités, on se perd. Enfin, ou alors il faudrait faire une variation d'un dessin sur 20. Enfin, mais c'est non, c'est l'enfer. Mais moi j'ai arrêté d'utiliser Photoshop et l'iPad j'utilise juste pour faire des croquis parfois quand j'ai des commandes pour montrer quelque chose parce que comme je fais pas de croquis. Quand j'ai un client, il faut quand même que je montre quelque chose. Donc, je fais un croquis à la couleur très rapidement. Mais sinon, je n'utilise pas les outils informatiques. Parce que, après, en fait, quand je travaillais avec Photoshop, j'avais l'impression de travailler dans un bureau et je ne faisais pas se valider. Moi, j'ai envie justement de ne pas être là-dedans.
Mais c'est pour ça qu'on te sent heureuse de dessiner. C'est parce que tu dessines sur du papier avec de la peinture. Donc, j'imagine qu'il y a une sensualité de la texture du papier, de l'odeur de la peinture. Alors que quand tu es là devant ton écran, tu te pixelises les yeux. Et c'est épanouissant, en fait, de revenir à ça, en fait. On entend de plus en plus d'artistes dire je jette au feu ma tablette et maintenant je redécouvre le plaisir de
dessiner. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment autre chose. C'est une autre manière de... C'est un autre instant, parce que c'est quand même passé beaucoup d'heures à travailler. Donc, il faut aussi se faire plaisir à soi. On n'a qu'une vie. Enfin, c'est vraiment... C'est quand même des instants de vie. Donc... Quand on dessine, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à faire ça. Passer beaucoup d'heures devant un ordinateur, c'est vrai qu'il n'y a plus le côté charnel, quoi, le sensuel.
Et c'est tout un débat avec aussi l'intelligence artificielle.
Alors l'intelligence artificielle, moi, je sais pas, ça fait un peu peur. Mais non, il y a des trucs qui ont l'air incroyables. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses incroyables. dans la médecine et tout, soigner des gens. Je pense que les gens qui ont un métier artistique, ils ont ce métier parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont besoin de ça pour se sentir bien. Et s'ils ne pouvaient pas faire ça, je pense qu'il y a des gens... Enfin, moi, peut-être que je serais beaucoup moins équilibrée si je n'avais pas la peinture ou le dessin. Et c'est dangereux, ça, si quelqu'un...
Couper la voix, couper la parole, couper la respiration, ouais, même, ouais, des artistes, hein, si on les empêche de créer. Ouais. Oui, ça c'est va déséquilibrer moitié. Le monde. On pourrait continuer des heures, Aurélie, à discuter ensemble.
Bah oui, c'est toujours agréable.
Merci beaucoup. Bah ouais, c'est plus qu'un podcast, en fait. Hein, c'est une... On pourrait continuer.
Ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant.
Oui, ta petite fille a le même âge que la galerie, Alice, qui dessine aussi, qui raconte des histoires aussi, et Erol. Ouais. Et ben, alors on va en conclusion, on fait toujours une petite séance de tarot, mais vraiment mini parce qu'on ne sort qu'une seule carte. Alors c'est l'ancien tarot de Marseille. Ah, tu connais. Ah, très bien. Et ben du coup, il faut brasser ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec ta main gauche.
Alors attends, la main gauche et sens inverse. Non, comme ça du coup.
Ouais, comme ça. Comme ça, tu mets bien ton fluide dedans. Il n'y a pas de mauvaise carte, ça, il faut le savoir. Enfin, hormis une qui est... j'ai un peu du mal quand on la sort, mais j'espère que tu vas sortir une autre carte que celle-là.
Et la pression, du coup.
Non. Voilà, si tu as une idée en tête, un projet, genre est-ce que je vais finir par écrire une BD. Non, si tu as une idée, voilà, tu te concentres dessus, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai, c'est toujours... Ah, oh, tu l'as sorti comme ça. Bon, mais c'est très bien. Mais c'est génial, l'amoureux. Ah, ça veut dire plein de choses. Quand même, l'amour est important aussi dans ton, ta création. Bah, oui.
C'est important pour, pour le monde entier.
Tu aimes le monde, tu aimes ta famille, la nature. Et là, l'amoureux, sa signification, c'est être à la croisée de chemin, figure-toi. C'est, d'ailleurs, tu le vois, il discute avec deux femmes différentes. En fait, c'est l'un, et il y a le petit angelot là qui est prêt à envoyer sa flèche pour te faire décider. En fait, on dirait que tu es sur un moment où faut que tu décides de quelque chose. Et donc, il y a une forme d'hésitation, mais qui est très positive. Hein. C'est, oui. Voilà, il y a deux possibilités qui s'offrent à toi et il va falloir que tu en choisisses une. Alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être un projet professionnel, est-ce que, ou bien une envie, ou enfin une destination de vie, comme tu en parlais tout à l'heure, de dire on peut changer plein de fois dans sa vie. Est-ce que tu vas nous faire une métamorphose là, ces prochains
peut-être.
Jours
peut-être.
Ouais. Donc c'est une très jolie carte. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et puis alors, on se retrouve ce soir pour le vernissage Respire à partir de 18h30. Voilà, merci.
Avec plaisir.
Salut.
Salut.
Normalement, il y a un protocole, on coupe et tout ça, mais c'est bien. Mais c'est bien, Aurélie, il faut garder. C'est la liberté, c'est ça. C'est la liberté d'action.